Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition du mercredi 4 novembre 2015. Au sommaire ce soir.
Accident dans la capitale du Soudan du Sud. Un avion cargo s'écrase au décollage. Et bilan, au moins 36 morts.
Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara préside son premier conseil des ministres et annonce qu'il n'y aura pas de changement dans le gouvernement.
Au Burundi, trois jours avant la fin de l'ultimatum lancé par le président Pierre Nkurunziza, des leaders de l'opposition insistent sur la tenue d'un dialogue inclusif.
Au stade actuel, la voie militaire, la voie de l'usage de la force n'est pas indiquée. C'est une voie qui conduit à des malheurs de tout un peuple.
L'Iran commémore le 36e anniversaire de la prise de l'ambassade américaine à Téhéran par des manifestants hostiles aux États-Unis et ses principaux alliés au Moyen-Orient.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Au Soudan du Sud, un avion cargo s'est écrasé au décollage ce matin dans une zone agricole. Le bilan fait état de 36 victimes. Pardon, Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
L'appareil a percuté une petite île du Nil Blanc à seulement 800 mètres du bout de la piste. Majou Hilary de la Croix-Rouge sud-soudanaise a confié à l'AFP que 36 corps avaient été récupérés. Un bilan susceptible de s'alourdir dans les heures qui viennent. Les causes exactes de ce crash sont encore inconnues. Sur l'île, il ne reste quasiment rien de l'avion, hormis sa queue, tout le reste ayant été pulvérisé par le choc. Selon le responsable de la Croix-Rouge, toutes les victimes se trouvaient à bord et personne au sol n'a été blessé, alors que l'épave se trouve à quelques dizaines de mètres de maisons de cultivateurs, restées miraculeusement intactes. Les avions cargo sont normalement utilisés pour le transport de fret avec un équipage de 5 à 6 personnes. Mais il est courant que dans certaines régions d'Afrique mal desservies, ces avions cargo embarquent des passagers, ce qui expliquerait le nombre élevé de victimes.
Bangui, la capitale de la République centrafricaine, encore sous tension ce mercredi. Des accrochages ont opposé les forces de la MINUSCA à des hommes armés vers la sortie nord de la ville. Par ailleurs, les parlementaires ont marché aujourd'hui pour exiger le réarmement des forces armées centrafricaines et aussi la paix. Le point avec Freeman Sipila.
Le Parlement de la transition a tenu son pari malgré l'interdiction de cette marche par le ministre de la Sécurité publique. Les parlementaires étaient plus d'une centaine, tous vêtus de noir, signe de deuil en Centrafrique, à faire entendre leur voix. La marche est partie du siège du Parlement provisoire pour chuter au rond-point place des Nations Unies sur l'avenue Conjugo, où l'hymne national a été entonné. Et c'est le président du Conseil national de transition, Alexandre Ferdinand Guindy, qui prend la parole pour attirer l'attention sur la situation sécuritaire toujours inquiétante dans le pays.
L'heure n'est plus aux condamnations. Nous attendons du gouvernement des actes concrets. Il appartient à ce gouvernement aujourd'hui et aussi à la communauté internationale d'intégrer nos forces de défense et de sécurité dans un délai d'une semaine.
Bien qu'écartés de cette marche, nombreux habitants de la ville se sont massés aux abords des avenues pour encourager les conseillers nationaux dans cette initiative. Par ailleurs, la tension a de nouveau repris dans la capitale. Des accrochages ont opposé dans la matinée, un contingent des casques bleus à des hommes armés dans les secteurs nord de Bangui. On déplore au moins un mort et plus d'une dizaine de blessés.
Freeman Sipila. En Ouganda, la commission électorale a validé les candidatures du président Yoweri Museveni et de ses principaux adversaires pour la présidentielle de 2016. Eric Manirakiza nous en dit plus.
Ce mercredi était le dernier jour pour le dépôt des dossiers auprès de la commission électorale à Kampala. Ce dépôt des candidatures sonne le début officiel de la campagne. Le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, est le grand favori de la présidentielle en février. Son parti, le Mouvement National de Résistance, est également donné largement favori aux législatives et locales qui auront lieu aussi en février. Du côté de l'opposition, Amama Mbabazi a été premier ministre jusqu'en 2014, avant de tomber en disgrâce. Kizza Besigye, ancien médecin personnel de Museveni, a déjà été battu trois fois en 2001, 2006 et 2011. Au moins trois autres petits candidats ont été enregistrés. Les deux principaux opposants au régime ougandais ont réaffirmé la semaine dernière s'être entendus sur le principe d'une candidature unique à la présidence.
Côte d'Ivoire, le président réélu Alassane Ouattara maintient son équipe gouvernementale en fonction. M. Ouattara a présidé aujourd'hui son premier conseil des ministres au lendemain de son investiture. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, 72 ans, reste ainsi chef d'un gouvernement de 28 ministres.
Et Guinée-Bissau, deux personnes sont mortes et 10 autres blessées lors d'un déplacement de la ministre de la Défense, accompagnée par des éléments des forces armées. Nous avons sur place notre correspondant Noah Mankali.
Le président de la Ligue Bissau-Guinéenne des droits humains, Mario Augusto da Silva, a annoncé avoir dirigé ce jour une délégation de cette organisation qui a visité José Zamora Nduta, ex-chef d'état-major général des forces armées, sur les lieux de sa détention à Mansoua, à 60 km de Bissau, pour s'informer non seulement des conditions dans lesquelles il est détenu, mais aussi de son état de santé. Mario Augusto da Silva a rappelé que le mois dernier, l'avocat de José Zamora Nduta lui aurait informé avoir déposé une habeas corpus à la Cour suprême de justice civile demandant la libération de son client afin que ce dernier puisse aller se soigner à l'étranger. Selon Augusto Silva, José Zamora Nduta a dit qu'il défend son innocence et qu'il a confiance à la justice qui sera en mesure de clarifier l'accusation qui pèse sur lui d'être le leader d'une tentative de putsch militaire présumée le 21 octobre 2012 qui a occasionné la mort de plus de 5 personnes. Noah Mankali, Bissau, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le groupe État islamique a réaffirmé sa responsabilité dans le crash de l'avion russe en Égypte, mais toujours sans fournir de preuves. Le groupe djihadiste a par ailleurs revendiqué une nouvelle attaque meurtrière contre la police égyptienne dans le Sinaï. Au Caire, des experts continuent d'examiner les enregistreurs de vol de l'Airbus A321 pour déterminer si l'avion a fait l'objet d'un attentat ou s'est écrasé suite à un accident technique. Les 224 personnes à bord ont trouvé la mort.
Au cas où vous aviez des doutes, les manifestations de ce mercredi en Iran prouvent que les États-Unis restaient l'ennemi officiel numéro un dans ce pays, malgré l'accord nucléaire historique conclu en juillet dernier.
À l'occasion du 36e anniversaire de la prise de l'ambassade américaine à Téhéran, des milliers de personnes ont crié des slogans anti-américains et contre Israël et l'Arabie Saoudite, deux grands alliés de Washington dans la région. Le 4 novembre 1979, quelques mois après la révolution islamique, des étudiants avaient envahi l'ambassade américaine. Des diplomates américains avaient été pris en otage pendant 444 jours, entraînant la rupture des relations diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis.
La Suède va demander à ses partenaires européens la relocalisation d'une partie des dizaines de milliers de migrants arrivant chaque mois sur son sol. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre cité par l'AFP. Une demande formelle doit être votée demain au Conseil des ministres. La Suède devra accueillir jusqu'à 190 000 réfugiés cette année. Stockholm cherche à endiguer l'afflux des demandeurs d'asile en adoptant diverses mesures, y compris le renvoi de migrants hors de ses frontières.
Au moins 16 personnes ont été tuées et près d'une centaine d'autres prises au piège par l'effondrement d'une usine dans une zone industrielle proche de Lahore, dans l'est du Pakistan, ont indiqué les responsables locaux à l'agence France-Presse. L'armée a annoncé qu'elle déployait des équipes spécialisées dans les recherches et des ingénieurs. Souvenez-vous, l'an dernier, une mosquée s'était effondrée dans la même ville, tuant 24 personnes.
En Roumanie, le Premier ministre Victor Ponta a démissionné 5 jours après l'incendie d'une discothèque à Bucarest qui a fait 32 morts et au moins 200 blessés. L'incident a traumatisé et révolté le pays, donnant lieu à des manifestations contre le gouvernement. Victor Ponta était visé dans d'autres affaires, y compris la mort d'un policier dans son cortège 10 jours avant l'incendie.
Zanzibar, les dirigeants de l'opposition disent qu'ils ne prendront pas part aux festivités prévues pour la prestation de serment du nouveau président tanzanien John Magufuli, en signe de protestation contre l'annulation des récentes élections sur leur archipel semi-autonome. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Bonsoir à tous. Bambou Finance et Louis Dreyfus Holding ont annoncé le 29 octobre dernier le lancement de Nisaba, un fonds d'investissement d'impact, impact investment en anglais, mode de financement d'entreprise encore peu répandu sur le continent. Une première tranche de 10 millions de dollars a été engagée avec pour objectif 50 millions d'investissements à terme. Le groupe portugais Salvador Caetano veut se développer en Afrique francophone. Avec ses 1,6 milliard d'euros de revenus, la société se positionne comme principal partenaire de Renault au sud du Sahara et le mois dernier a fait entrer dans sa filiale africaine le capital investeur Afrique Invest. Et enfin, l'autoroute Bamako-Koulikoro, 45 km, est en travaux. Le résultat, attendu dans 30 mois, devrait permettre de désenclaver l'intérieur du pays. Coût de l'opération, un peu plus de 47 milliards de francs CFA, financé par les principales banques commerciales maliennes, la Banque Ouest-Africaine de Développement et l'État malien.
La Minute Éco, merci Anastasie.
Tout de suite l'actualité sportive avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Tour du Faso, un Burkinabé sur le podium de la sixième étape courue ce matin.
Oui, il s'agit d'Abdulaziz Nikiema, vainqueur de la dernière édition en 2013. Il a parcouru les 134 km de l'étape en 2h58 minutes 59 secondes, à près de 45 km/h de moyenne. Le Marocain Mouchine Lasseni reste toujours leader du classement général. Demain jeudi, la septième étape est la plus courte du tour avec 85 km, mènera le peloton de Bobo Dioulasso à Banfora.
C'est bien de penser à la fin de semaine, Bagassi Koura. J'allais dire Bagassi Koura. Alors, on reste sur le vélo. La Fédération néerlandaise de cyclisme réclame 140 000 euros au Tour de France.
Oui, la Fédération néerlandaise réclame cette somme à ASO, la société organisatrice du Tour de France, et s'est tournée vers l'arbitrage de l'UCI, l'Union cycliste internationale, pour récupérer cette somme. Le Tour de France 2015, on se rappelle, avait démarré début juillet d'Utrecht dans le centre des Pays-Bas avec un contre-la-montre pour la Fédération néerlandaise. Toute personne qui veut organiser une course aux Pays-Bas doit payer une certaine somme. C'est ce qu'a affirmé un responsable néerlandais du cyclisme, soulignant que la somme en question dépendait de l'ampleur de l'événement.
Parlons de l'ex-patron de l'athlétisme mondial, le Sénégalais Lamine Diack, mis en examen en France.
Oui, Lamine Diack a été inculpé depuis lundi pour corruption passive et blanchiment aggravé dans une affaire de corruption visant à couvrir des cas de dopage en Russie. Âgé de 82 ans, Lamine Diack, qui a laissé son poste cet été au Britannique Sébastien Coé, a été mis en examen par deux juges françaises pour corruption passive et blanchiment aggravé. C'est ce que rapporte l'AFP. Placé sous contrôle judiciaire, il a été laissé libre.
Football, quatrième journée de la Ligue des Champions hier soir en Europe.
Oui, dans le groupe A, Shakhtar Donetsk a écrasé Malmö 4-0. Le Real Madrid est venu à bout du Paris Saint-Germain 1-0. Et dans le groupe B, le PSV Eindhoven a dominé Wolfsburg 2-0. Manchester City a eu raison des Russes du CSKA Moscou 1-0. Le troisième disputera l'Europa League et les équipes sont départagées sur bain via des rencontres directes puis via la différence de but général.
Que se passe-t-il dans le groupe C?
Eh bien, dans le groupe C, à Lisbonne, Benfica a battu le Galatasaray 2-1, 0-0 entre le FC Astana et l'Atlético Madrid. Benfica est en tête dans ce groupe avec 9 points, suivi de l'Atlético avec 7 points. Dans le groupe D, Chérubin, FC Séville a été laminé par Manchester City de Yaya Touré 3-1. Match nul, un but partout entre Mönchengladbach et la Juve de Turin. Les deux premiers, donc, comme je le disais, sont qualifiés en huitième de finale.
Tennis, Masters de Paris-Bercy.
Oui, Novak Djokovic s'est qualifié sans frémir pour les huitièmes de finale du tournoi. Le numéro 1 mondial a dominé le Brésilien Thomas Bellucci 7-5, 6-3. Le double tenant du titre affrontera au prochain tour le Français Gilles Simon. Deux outsiders, le Suisse Stan Wawrinka et l'Espagnol David Ferrer se sont également qualifiés pour les huitièmes de finale. Et donc, ces huitièmes de finale, c'est en fin de semaine.
5 secondes pour parler de basket.
Eh bien, Charlotte a largement dominé Chicago 130 à 105, c'est ce qu'on pourrait dire avec 5 secondes.
Et Indiana bat Détroit 92-84. Merci Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériac et Chérubin Dorsil, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Bujumbura.
Dans trois jours, le dernier ultimatum lancé par le président burundais pour le désarmement des civils armés va prendre fin. La récréation est finie, ont déclaré cinq membres du gouvernement, dont le premier vice-président du Burundi, en tournée aujourd'hui au sud de Bujumbura. Mais le président de l'ADC, Ikibiri, une coalition de formations politiques de l'opposition, affirme que la solution doit passer par un dialogue inclusif. Reportage à Bujumbura de notre correspondant Christophe Kourounziza.
Léon Sengendakumana, président de la coalition de partis politiques ADC Ikibiri, Alliance pour la démocratie et le changement, reste un des rares politiciens qui a combattu le troisième mandat de Pierre Nkurunziza qui se trouve toujours à Bujumbura. Il réside dans sa maison située dans un quartier qui surplombe la ville. À la question de connaître sa réaction sur l'ultimatum lancé par le président de la République et les cinq ministres de son gouvernement qui ont sillonné mardi et mercredi les communes au nord et au sud de la capitale, Léon Sengendakumana se dit très serein.
Je pense que le président a fait une très mauvaise appréciation. Quand le président déclarait la guerre, les perdants, ce sont des Burundais aussi. Les victimes, ce sont des Burundais. Au stade actuel, la voie militaire, la voie de l'usage de la force n'est pas indiquée. C'est une voie qui conduit à des malheurs de tout un peuple. Il doit accepter le principe de la négociation politique.
Tout en reconnaissant qu'il y a des personnes qui possèdent les armes dans différents endroits de la capitale, le président de l'ADC, Ikibiri, est étonné quand les autorités parlent d'insurgés, Léonce Nguédakoumane.
Ce qu'il qualifie d'insurgés, ce sont des Burundais qui ont dit non à la négation de l'accord d'Arusha, qui ont dit non à l'abrogation de la constitution de la République du Burundi, comme le Parlement évidemment l'a fait aussi. Ceux-là ne sont pas des insurgés. Les insurgés, ce sont ceux qui ont pris les armes militaires et policières pour détruire l'accord d'Arusha et la constitution de la République du Burundi. Et s'ils continuent à utiliser l'usage de la force, l'usage de l'arme, ils vont apprendre à d'autres Burundais pour se défendre l'utilisation des armes aussi.
Le premier vice-président du Burundi et les ministres de la Défense nationale et de la Sécurité publique ont, dans leur tournée mardi et mercredi à mairie de Bujumbura, réaffirmé que le temps des tergiversations est fini. Mais pour ce citoyen de la capitale qui a requis l'anonymat, ces discours des hautes autorités de l'État divisent la population.
Les Burundais, les ethnies confondues, ce sont des citoyens du Burundi. C'est-à-dire qu'ils lèvent certains citoyens pour tuer d'autres. Une fois qu'ils envoient les policiers ou les militaires dans ces quartiers, c'est-à-dire qu'il y aura des victimes. Et ces victimes, ce sont des Burundais, quelle que soit leur appartenance politique ou religieuse.
Les manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont été violemment réprimées par certains membres des forces de l'ordre en mai et juin dernier. Après les élections du mois de juillet, la violence a pris les pas sur les manifestations. Des corps ont été quotidiennement retrouvés dans certaines ruelles des quartiers contestataires. Christophe Kourounziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Au Bénin, à peine démarré, l'année scolaire a du mal à prendre forme dans le secteur public. Les centrales syndicales ont lancé un mouvement de grève de 72 heures chaque semaine et ce mouvement est scrupuleusement respecté par les enseignants. Écoutons un reportage de la correspondante de VOA Afrique à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Le ciel de l'école béninoise s'est assombri de gros nuages qui en ont statut du corps enseignant, revalorisation de la fonction enseignante, revalorisation salariale. Les enseignants, depuis bientôt un mois, observent 72 heures de grève chaque semaine pour manifester leur mécontentement. Et dans cette bataille gouvernement-syndicat, ce sont les apprenants qui en payent le prix élevé.
On n'a pas fait tout, parce qu'on aurait appris que la grève continue toujours. Le professeur n'est pas encore là. Ce n'est pas une situation normale.
Les classes sont vides. Les élèves sont là, mais les profs ne sont pas là. Donc, on attend pour voir. Ce n'est pas bien de commencer la rentrée scolaire avec une grève, puisque il faut quand même qu'on atteigne un certain niveau avant les examens, préparer les examens. Donc, ce n'est pas bon pour notre niveau. On demande sincèrement au gouvernement de faire quelque chose, puisqu'on est là, on prépare notre avenir. Et ce n'est pas bien que les professeurs ou bien les syndicats mettent en jeu notre avenir.
Malgré les séances de négociation, les centrales syndicales restent imperturbables et refusent de se fier à ce gouvernement, espère quand il s'agit de faire des promesses, absent quand il faut les tenir.
Le constat que nous avons fait, c'est que le gouvernement entretient un certain flou.
Avant que la grève ne cesse définitivement, il y a deux préalables. La signature du décret portant statut des enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire. Deuxième chose, le relevé des conclusions que nous avons eues.
On s'est mis d'accord sur le paiement des 1,25 aux enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire, technique et professionnel. Premier point qui constitue une victoire pour les enseignants. On s'est mis d'accord sur la signature des statuts particuliers des enseignants de la maternelle et du primaire, puis de celui du secondaire technique et professionnel. Le troisième point, nous avons dit qu'il s'agit d'engager les négociations avec les responsables des enseignants pour l'application progressive du contenu des statuts particuliers.
Le gouvernement demande du temps pour se mettre à jour et satisfaire les revendications, mais les centrales syndicales disent avoir épuisé le crédit patience emmagasiné.
Nous avons déjà fait preuve de notre patience. Nous espérons que le gouvernement va accélérer la procédure afin que à la fin, d'ici à là, que nous puissions, d'ici à une semaine, connaître nos statuts particuliers. Sinon, nous ne serons plus responsables de rien et nous ne jurerons plus de rien.
Pour le moment, pendant que les apprenants du privé vont rigoureusement à l'école, ceux du public flagonnent en attendant que syndicats et gouvernements ne fument le calumet de la paix. De Cotonou, Ginette Fleur Adonlé pour VOA Afrique.
Le phénomène du tourisme de maternité prend de l'ampleur en Afrique. De plus en plus d'Africaines enceintes se rendent en Europe ou viennent ici aux États-Unis pour accoucher afin que leurs enfants acquièrent une nationalité étrangère. Cette pratique, qui a quelques avantages pour les mères, pose de sérieux problèmes, notamment lorsqu'elles se retrouvent face à de grosses factures d'hospitalisation. Pour un éclairage, Modibo Dembélé a joint maître Nadia Mariam Bioel, avocate à Bamako.
Pour certaines, c'est pour le prestige, pour qu'on se dise que les enfants sont nés en France ou aux États-Unis pour avoir la nationalité dans un souci d'assurer l'avenir meilleur des enfants. Ou certaines aussi, c'est pour des raisons sanitaires qui peut-être présentent une grossesse assez compliquée.
Que doivent-ils faire les gouvernements pour faciliter l'obtention du visa, étant donné que la plupart d'entre elles, comme vous l'avez si bien dit, proviennent d'un certain milieu aisé?
Cela découle de la politique d'immigration que les gouvernements ont avec les États concernés dans le cadre de leurs accords bilatéraux. Je pense que lorsque les raisons sont plus justifiées, par exemple s'il s'agit d'une raison sanitaire, à ce niveau-là, une plus grande préoccupation doit permettre à la femme enceinte de pouvoir être évacuée dans les meilleures conditions, et cela en leur accordant un visa, on va dire entre guillemets, privilégié. Quand il s'agit de le faire pour le prestige ou de le faire parce qu'on veut offrir une nationalité étrangère à son enfant pour lui permettre certainement d'étudier ou même de se frayer un meilleur chemin. Là aussi, je pense que la question doit être envisagée pour certaines personnes de milieux assez aisés.
On a constaté que la plupart de ces femmes, quand elles viennent, certes, elles accouchent et après, lorsqu'elles quittent, elles laissent derrière elles des factures médicales impayées. Et dans ce cas, que proposez-vous comme conseil ou solution à ces dames ou leurs conjoints, dont la plupart aussi souffrent beaucoup durant cette épreuve?
On ne peut pas vouloir une chose et son compte. Quand on décide de quitter son pays pour aller accoucher dans un autre pays et qu'on va s'inscrire à l'hôpital et on ne bénéficie pas d'une assurance maladie parce qu'on n'est pas résident de ce pays ou qu'on n'est pas la nationalité de ce pays, c'est un engagement contractuel qu'on prend et il faut le respecter. Alors si vous ne respectez pas votre engagement, vous recevez les soins, mais dès que vous accouchez dans les bonnes conditions et que vous ne bénéficiez pas d'un régime social vous permettant d'être êtes exonéré de payer ces frais, vous n'avez qu'à payer vos factures. Et si vous ne payez pas vos factures, dans ces pays-là, tout est informatisé, tout est fiché. Et bien, quand vous vous représentez à l'ambassade, puisque vous n'êtes pas bien comporté dans leur pays, et bien, c'est de bonne question, vous refusez le visa. En ce moment, soit vous faites les démarches, bénéficiez de ces facilités, ou quand vous vous rendez que vous n'avez aucune facilité, bien, vous prenez le soin de payer vos factures. Il y va pour votre image personnelle, il y va pour l'image du pays que vous représentez là-bas. À cause de ces comportements, d'autres personnes vont être lésées pour ne pas avoir le visa, même s'ils le demandent de manière légitime. C'est qu'ils fassent tout pour être en règle avec la réglementation en vigueur. C'est même dans l'intérêt de l'enfant qui sera né là-bas.
Maître Nadia Mariam Biolélé, avocate à Bamako.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la guerre en Syrie après la décision des États-Unis de déployer un petit nombre de leurs forces spéciales sur le sol syrien pour encadrer les combattants kurdes dans leur lutte contre le groupe État islamique. S'agit-il d'une inflexion dans la stratégie américaine? Les États-Unis doivent-ils en fait s'impliquer davantage militairement? Quid du rôle de la Russie? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Suite à Dakar au Sénégal de la conférence sur la propriété intellectuelle pour une Afrique émergente, ouverte mardi sous le patronage de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de l'Union africaine, du Sénégal et du Japon. Pour nous en parler, Eddy Sango a joint à Yaoundé le chargé de la communication de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, François Gwodog.
Petit à petit, il y a une prise de conscience de questions liées à la propriété intellectuelle et j'en veux pour preuve l'implication déjà des décideurs politiques dans la question, un plus grand engouement dans ces questions qui se manifestent par exemple dans les demandes de formation que nous avons et même sur les paramètres comme le volume de dépôts qui est en croissance progressive.
La contrefaçon est monnaie courante en Afrique avec la pauvreté, est-ce que vous pensez que l'Afrique pourrait se départir de la contrefaçon aussi facilement?
Nous faisons un travail dans ce sens-là, de sensibiliser sur les risques de la contrefaçon, parce que les risques de la contrefaçon sont énormes. Les risques encourus, les produits contrefaits sont des produits qui peuvent être très dangereux pour l'homme. Donc, en dehors du désastre économique que cela pourrait apporter, il y a ces risques inhérents. Donc, à travers les programmes de formation, de sensibilisation, l'OAPI essaie de mettre sa pierre à cet édifice pour combattre ce fléau au sein de nos 17 États membres. Il faudra peut-être du temps pour arriver à vaincre ce fléau.
Et quels sont les obstacles auxquels vous faites face?
Je pense qu'il y a une certaine méconnaissance des textes qui ne sont pas toujours connus par les acteurs de ce domaine. Il y a la mauvaise foi, bien entendu. Il y a bien entendu également la pauvreté qui fait le lit de ce fléau. Vous convenez avec moi que de façon naturelle, les clients auraient toujours un penchant vers le produit le moins cher, sans se poser la question de qu'est-ce que ça cache.
Vous avez parlé des produits moins chers et on sait que la plupart de ces produits viennent de la Chine qui a une influence presque sur tout le plan en Afrique aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette influence ne pourrait pas amener les Africains à suivre l'exemple de la Chine? On sait ce qu'est la Chine par rapport au droit de la propriété ou ce qu'elle a été.
Quand j'observe par exemple les statistiques ici à notre niveau, je constate que les dépôts, par exemple, en provenance de la Chine, sont en nette croissance. Ce qui veut dire que, du point de vue de la Chine officielle, ils s'inscrivent, n'est-ce pas, à vouloir conquérir de façon légale, si je peux ainsi dire, cette part de marché-là.
François Gwodog, joint à Yaoundé.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde ce soir, Georges Léonard Sagno, présentation Morgane Gaillec et chérubin Gaby Dorsil.
On remercie notre ami Regis à la console. Ainsi va le monde aujourd'hui. VOA Afrique, c'est l'info, mais c'est aussi une conversation qui se poursuit, bien sûr, avec vous sur Facebook. Vous pouvez partager vos impressions, vos photos et poser des questions. N'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.